Voilà, donc je voulais représenter en quelques minutes la CEPRON, qui est donc une fédération qui, au niveau national, existe depuis un peu plus de 30 ans. Voilà, donc au niveau de la CEPRON, on travaille un petit peu sur trois pôles. On a un pôle accompagnement et développement qui est plutôt au niveau des structures petite enfance, soit pour les développer, accompagner à leur création, soit accompagner voilà, la vie associative ou les équipes au long cours. On a un pôle formation, puisqu'on a un lieu de formation voilà, pour les professionnels de la petite enfance. Et un troisième pôle qui est donc parentalité, diversité, dans lequel, entre autres, voilà, rentre le lieu passerelle, donc cet espace parent-enfant à Saint-Priest, où j'étais ce matin, c'est pour ça que je n'étais pas là. Voilà, et j'anime d'autres espaces parent-enfant en dehors de celui-là. Voilà, ce que je dirais d'important par rapport à cet accompagnement à la scolarité, c'est avant tout la relation famille-école, qui est un point très important. D'ailleurs, je pense que ce petit reportage de 10 minutes est voilà, très révélateur hein, de ce qui se vit dans cet espace, de ce qui s'y échange, de ce qui s'y travaille pour ces familles. Et que effectivement, moi, les freins que je repère de manière quasi systématique dans ces écoles, au niveau de ces quartiers-là, c'est que très souvent, pour le parent, rien que le fait de rentrer dans une école, ça leur envoie sa propre scolarité. Et 9 fois sur 10, ça le renvoie à des souvenirs qui sont pas forcément très positifs, très agréables, voire à des échecs scolaires cuisants. Donc et déjà, il y a une appréhension d'entrée de jeu qui est très très forte et que souvent on minimise, nous. Parce qu'évidemment, ils vont pas nous la dire ou nous la montrer telle qu'elle. Donc ils vont plutôt la montrer sur des versants de protection, hein, c'est-à-dire en étant plus agressif, en étant plus distant, en étant plus évitant, en venant pas aux réunions, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un point qui est important. Et effectivement, ce type d'espace permet peu à peu, plusieurs mamans l'ont dit hein, dans le reportage, voilà, de prendre confiance, d'entrer en relation avec les enseignants, avec les ATSEM, avec ce qu'est l'école, et peut-être de la voir, de la vivre d'une façon différente maintenant qu'ils sont parents, d'avoir un autre regard, d'avoir une autre position. Et effectivement, ça fonctionne. Je peux en témoigner que ça fonctionne vraiment. Je me souviens d'un exemple très 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 fort, donc qu'on a vécu justement au niveau de Saint-Priest à une période. Donc cet espace au niveau de Saint-Priest existe depuis 7 ans, même un peu plus que 7 ans maintenant. Donc on a un petit peu de bagage. Et il y a eu une période où on a volontairement fait le choix entre les enseignants et les mamans de qui côtoient cet espace de faire des repas partagés. Donc entre midi et deux, bien évidemment, où à tour de rôle, c'était soit les enseignants, soit les mamans qui apportaient des plats voilà, à partager ensemble. Et ça paraissait totalement anodin, puisqu'on parlait un petit peu de tout et de rien, pas forcément de l'école, pas forcément des élèves. Voilà. Mais ça permettait quoi une rencontre d'égal à égal, c'est-à-dire être humain à être humain. Et il y a tout un tas de mamans qui m'ont dit « Ah, mais j'aurais jamais imaginé une telle, elle a dit ça, mais j'aurais cru que parce qu'elle était enseignante, elle savait tout faire avec son enfant. » Alors que voilà, cette enseignante avait cité une anecdote personnelle qui avait fait rire tout le monde. Mais au-delà de l'anecdote, ça avait révélé quelque chose aux yeux et à la pensée de maman de se dire « Ah, mais voilà, c'est... C'est différent que ce qu'on imagine en fait. Et vraiment les représentations tombent, les représentations évoluent, se modèlent. Et il y a une vraie rencontre. Et grâce à cette rencontre, il peut effectivement y avoir de la confiance. Et peu à peu, je ne dis pas que c'est magique, là aussi il faut du temps. On l'a beaucoup dit tout à l'heure et je confirme, il faut du temps. D'un côté comme de l'autre, pour chacun, il faut du temps pour se rencontrer. Et à terme, effectivement, les mamans qui sont concernées... Eh bien, elles viennent volontiers aux réunions, même si, voilà, des fois c'est un peu rébarbatif, mais malgré tout, elles n'ont plus la crainte qu'elles avaient au début. Même quand un enseignant va leur dire, voilà, il faut que je vous voie concernant votre enfant, d'habitude, elles partaient en courant pour pleurer ou pour craquer, et puis elles ne venaient pas à la réunion, ou alors il fallait en être à la troisième tentative, au troisième rendez-vous pour qu'elles viennent vraiment. Bien là, elles y vont, voilà, avec plus de légèreté, si je puis dire. Et les choses se passent de façon un peu plus classique. Alors un autre point important, c'est j'aimerais dire la culture professionnelle, j'entends là, hein, c'est-à-dire voilà l'école, tout comme n'importe quel lieu de travail, hein. C'est une culture aussi à part entière, avec du vocabulaire, hein. On l'a vu tout à l'heure, quelqu'un est venu à notre secours pour quelques notions de vocabulaire auxquelles moi, je ne suivais plus déjà. Voilà, mais les parents, c'est ça, exposant 10, c'est-à-dire que déjà comprendre comment fonctionne l'école en France, c'est déjà pas une mince affaire. Alors, voilà, il y a des salariés de l'éducation nationale, il y a des salariés de la commune... Voilà, c'est toute une complexité que beaucoup de parents n'arrivent pas du tout à mesurer. Alors moi, j'interviens surtout dans des espaces qui sont dans des maternelles. Hein. Et souvent, dans les maternelles, voilà, l'enseignant, tout comme la TSEM, sont appelés par leur prénom, par les enfants, tout comme par les parents. Et très souvent, les parents, ils vont dire, va voir une telle. Mais alors, qui est l'enseignant? Qui est la TSEM? Voilà, ça, c'est un autre débat. Certains le savent, mais j'ai envie de dire, la majorité ne se préoccupe pas de cette question. C'est-à-dire, ils ont un a priori, pour le coup, de confiance vis-à-vis de leur enfant. Ils savent prendre en charge notre enfant, voire même, ils vont faire des demandes qui sont un peu hors du cadre d'une école, mais parce qu'ils ont un a priori de confiance, voire même en se dénigrant un peu eux-mêmes dans leurs compétences ou ce qui, j'imagine, être insuffisante. Voilà, donc ça, c'est un point qui est important. Il faut vraiment qu'ils arrivent à comprendre comment fonctionne l'école. Moi, je passe mon temps à redire comment fonctionne l'école à des parents, soit à du nouveau parent, voilà, qui arrive, soit dans cet espace, soit dans l'école tout court. Très régulièrement, je demande à des enseignants, à des ATSEM, voire à des ACEP, de venir expliquer de façon directe, hein, avec les parents sur des petits créneaux, hein, on arrive à se trouver une demi-heure, trois quarts d'heure comme ça, pour qu'ils viennent en parler eux-mêmes, répondre à des questions, vraiment qu'il y ait un échange, qu'il y ait un débat. Ce serait encore plus pertinent si c'est la personne elle-même qui en parle plutôt que moi. Et ça ouvre vraiment, alors là je vois que les représentations évoluent à grands pas, parce qu'ils découvrent bien la réalité de ce qu'est une école, de la culture qui est particulier, qu'elle est à l'école. Ça, c'est un point qui est très très important. Après, bien sûr, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a la barrière parfois de la langue, soit au niveau oral, soit au niveau écrit, soit les deux. À mes yeux, de par mon expérience, c'est pas la barrière la plus importante, mais elle existe quand même. Je dirais que la barrière la plus importante, c'est les modes de communication. C'est comment on accueille, comment on se sent accueilli. Et ça, c'est totalement subjectif. J'aimais beaucoup l'expression tout à l'heure, le bon sens, ça se partage. Effectivement, le bon sens, ça va de soi, mais c'est tellement subjectif. Et là, c'est du même ordre, l'accueil. C'est quoi accueillir quelqu'un? Comment on s'y prend au niveau verbal, au niveau non-verbal? Voilà, c'est toute une histoire. Et pour les parents, c'est pareil. De leur côté... Quand ils se sentent accueillis, est-ce que c'est quand on fait la bise? Est-ce que c'est quand on regarde dans les yeux? Est-ce que c'est au contraire quand on regarde pas dans les yeux parce que c'est plus respectueux, c'est moins envahissant? Ouais, vous voyez, tout ce genre de subtilité. C'est très complexe en réalité. Et je trouve que ça fait beaucoup plus barrière que la langue en elle-même. Même les personnes qui ne maîtrisent pas totalement le français, même à l'oral, arrivent à se débrouiller. Hein, à ce niveau-là. Soit elles redemandent à quelqu'un d'autre après, dans le groupe ou dans leur connaissance, ou elles vont venir avec quelqu'un de la famille qui maîtrise un peu plus le français ou une connaissance, voilà. Donc les moyens pour dépasser ce frein sont assez faciles. Par contre, voilà, si le premier accueil, le premier entretien, on va dire, avec le directeur ou la directrice a été un peu expéditif, un peu... Voilà, c'est du subjectif, c'est du ressenti de la part des parents. Mais moi, j'ai en mémoire beaucoup de mamans qui me disaient « Oh bah, la directrice, la première fois que je l'ai vue, j'étais très très mal, ouh là là !» Et puis au fil du temps, je me suis aperçue qu'elle n'est pas du tout comme ça. Maintenant, c'est l'enseignante dans la classe de mon enfant. J'ai découvert qui elle était. Voilà, il y a eu tout un cheminement. Mais effectivement, on voit que la première rencontre compte énormément. Et c'est pareil avec les enseignants, quoi, pour une famille qui arrive et qui emmène son enfant en toute petite section ou en petite section pour la première fois. Je peux vous assurer que les premiers jours, les premières semaines, etc., sont très très importantes, justement, pour ce lien de confiance, pour cette rencontre de personne à personne et pour se sentir accueillir, se sentir à sa place. Beaucoup de parents ne se sentent pas légitimes à passer la porte de l'école, carrément, parce qu'ils ne se sentent pas à leur place. Le moindre regard ou un élément qui n'est pas dit, une information qui n'est pas donnée, ils vont même pas faire attention parce que c'est pas leur place. Voilà, ils sont absolument pas légitimes. Donc déjà, il y a tout un, j'ai envie de dire, un accompagnement pour ça, qui prennent conscience de ça. Et dans cet espace et d'autres, hein, ce que je trouve assez riche justement, c'est qu'ils puissent témoigner les uns aux autres aussi. Et on voit dans ce reportage des mamans qui témoignent de comment elles étaient au début et puis comment elles sont au bout de quelques mois ou quelques années. Et elles se le disent les unes aux autres. Et ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas seulement la parole d'un professionnel, que ça soit moi ou un enseignant ou je ne sais qui. C'est la parole d'un autre parent qui a cheminé, qui est dans la même école, qui vit les mêmes choses, qui côtoie les mêmes adultes, etc., etc. Et ça a un poids qui est très important pour elles et qui les fait maturer ensemble et qui fait aussi la cohésion de ce groupe qui est assez impressionnante. Je dirais aussi que, toujours pour parler de l'accueil et de la façon d'être accueilli, qu'il y a une différence aussi entre l'accueil au niveau des enseignants et au niveau des ATSEM. Donc ils sont sur des temps différents, hein, parce que au niveau de Saint-Priest, en tout cas, les ATSEM font les temps périscolaires du matin et une partie de ceux de l'après-midi. Et là aussi, des fois, il y a une grande différence dans la façon d'accueillir, dans la façon voilà d'être préoccupé et donc d'accueillir dans des conditions qui sont pas idéales, et qui créent des fois des disparités, des incompréhensions au niveau des parents. Ils disent bah, pourquoi ça se passe comme ça avec une telle, pas une telle. Alors, voilà, il y a un peu de confusion parfois, donc c'est intéressant de repartir d'exemples et puis de travailler, je dirais, avec elle, hein, pour dire voilà, est-ce que c'est une période où cette personne est fatiguée, est-ce que justement c'est qu'elle a un autre travail et que son niveau de stress est différent, est-ce que c'est lié à son caractère, enfin etc etc, et pas juste rester sur un ressenti qui très rapidement peut monter en conflit. Je peux en témoigner aussi, poser ça sur la table, entre guillemets, et ensemble, pouvoir avancer. Et ça fait aussi partie de cette mise en confiance avec l'ensemble de l'école, et pas seulement le corps enseignant. Et puis, je dirais comme dernier frein, c'est très souvent des familles, des adultes qui se sentent rejetés un peu partout, donc qui peuvent aussi témoigner, malheureusement, au kilomètre, de situations où ils se sentent jamais au bon endroit, jamais avec les bons papiers, jamais dans la bonne institution. Alors voilà, peu importe l'institution, hein, que ce soit la mairie, la CAF, voilà, etc., etc. La poste, voilà, la liste est très très longue. Mais où ils se sentent constamment en décalage, en fait, constamment différents, constamment rejetés ou pas loin de ça en tout cas. Donc quand ils arrivent à l'école, bah ils arrivent avec le même ressenti, ça va être comme d'habitude. Hop, donc ils mettent le bouclier comme d'habitude, hop, voilà, et la distance est là dès le début, et c'est tout un travail de réduire cette distance. Et par rapport à leurs enfants, là je vois plutôt tout ce qui est vraiment très scolaire, l'aspect devoir, etc. Très souvent les parents bien misent énormément sur leurs enfants, hein, en termes de projection identificatoire, c'est quelque chose de très très fort. Et très souvent, l'échec ou bon la scolarité houleuse que eux ils ont vécu, ils souhaitent surtout pas que leur enfant la vive. Donc ils sont assez épidermiques par rapport à ce sujet-là, bien évidemment. Et ils vont aussi être très exigeants avec leurs enfants. C'est-à-dire, des fois, contrairement à ce que nous avons comme représentation, je peux vous assurer qu'il y a des parents qui peuvent être très, très exigeants, je pèse mes mots, avec leurs enfants par rapport aux devoirs, par rapport à ce qui était demandé par la maîtresse, par le maître, etc. Jusqu'à parfois créer des conflits au niveau familial, hein, et que l'enfant ou les enfants concernés soient un peu pressurisés, si je puis dire. Et des fois, en évoquant ce genre de sujet avec d'autres parents, c'est ça l'intérêt, eh bien de dédramatiser des choses, de dire non mais c'est pas parce que il a pas fait ça ou qu'il a pas su sa poésie en entier que c'est un drame, voilà. Et je vois vraiment comment ses parents se régulent entre eux, j'ai envie de dire, hein, et permettent de trouver une juste mesure, parce que très souvent d'ailleurs eux ils le vivent comme ça, hein, ils disent ouais, de toute façon tout le monde dit qu'on est des mauvais parents, qu'on est des missionnaires, qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on n'est pas capable, que voilà. Donc ces étiquettes là ils les ont bien collées sur le front, à tel point que parfois ils en sont eux-mêmes convaincus, ce qui est assez terrible, mais c'est la réalité. Et de pouvoir échanger avec d'autres parents, voire avec aussi voilà des professionnels, ça leur permet de se réajuster, de se repositionner, et de s'apercevoir que en fait, ils s'en sortent peut-être pas aussi mal qu'ils croyaient, et que peut-être ils peuvent lever un peu le pied. On voit cette maman là dans le reportage qui disait entre ce que me disait l'enseignant, l'orthophoniste, je savais plus où j'en étais. Et effectivement, c'est une maman voilà qui est très sensible à ces sujets-là et qui fait tout pour que ça se passe bien pour ses enfants. etc., etc. Et en fait, quand elle est venue dans cet espace, à force de rencontrer les autres et d'évoquer ces sujets, elle a lâché en fait beaucoup de pression. Elle était dans une posture, voilà, très exigeante. Donc c'est un peu comme les dominos, on a l'impression, paf, ça part du premier domino, puis ça arrive, puis le dernier, il tombe complètement à plat, quoi. Elle a beaucoup cheminé par rapport à ça. Au niveau des devoirs, bien évidemment, là pour le coup, la problématique de la langue est beaucoup plus importante. C'est effectivement un parent qui maîtrise pas assez pour le coup l'écrit, va pas pouvoir soutenir son enfant parce qu'il a pas, voilà, il a pas cet élément-là. Alors ça veut pas dire qu'il peut pas le faire d'autre façon. On est tout à fait d'accord. Mais très souvent, c'est le parent lui-même qui va se sentir mal à l'aise par rapport à ça. Voire même quand l'enfant grandit, moi je l'ai vu au niveau de certaines familles avec des enfants qui rentrent dans la préadolescence, qui rentrent au collège, etc., etc. Ils se sentent inférieurs entre guillemets même à leur propre enfant. Donc, vous voyez, lui il parle, lui il fait, lui il écrit, voilà, avec vraiment un visage qui en dit très très long sur les quelques années où se sont entassées des frustrations. Des incapacités à faire autrement, à trouver des solutions autrement. Voilà, donc ça c'est une réelle difficulté à ce niveau-là. J'ai envie de dire, il y a des familles qui arrivent, soit là c'est les plus isolés qui se retrouvent dans cette situation, mais il y en a quand même qui sont un peu moins isolés heureusement et qui arrivent à trouver des relais, voilà, avec des amis, avec des voisins, ou alors avec effectivement le fils aîné, la sœur aînée qui ont une capacité et qui a un peu de temps aussi, parce que c'est pas si simple, voilà, à trouver des façons de faire pour quand même soutenir l'enfant quand il est à la maison, dans ses devoirs, dans ce qu'il a à faire pour l'école. Ça c'est important. Et après il y a aussi, ça c'est un frein qui est évident, et c'est des fois des parents qui ne viennent pas dans des espaces comme ça, même si on fait tout pour, mais des parents qui n'arrivent pas à faire alliance avec l'école de façon globale. C'est-à-dire qu'ils vont, j'ai envie de dire, par système un peu miroir et d'escalade symétrique, qui vont dénigrer l'école de façon systématique. Parce que eux-mêmes se sentent dénigrés par l'école ou par d'autres institutions. En tout cas, c'est leur ressenti. Et de manière systématique, ils vont dénigrer aux yeux de l'enfant. C'est ça qui est problématique, hein, bien évidemment. Ils vont dénigrer ce qu'a dit, ce qu'a fait, ce qu'a écrit l'enseignant. Et à force d'entendre ça année après année, effectivement, ça a un impact au niveau des enfants, bien évidemment. Donc c'est pas très simple. Ça, c'est une réalité. Donc l'enfant sait par principe qu'il ne pourra pas avoir de soutien auprès de son parent par rapport à cette problématique, par exemple des devoirs ou de quelque chose qui s'est passé à l'école. Il aborde même pas le sujet parce qu'il sait par expérience que ça va de toute façon tourner dans le même sens et qu'il n'aura pas de soutien. Donc on voit des enfants des fois qui font avec les parents d'un copain, d'une copine, ou des fois avec des animateurs, des ATSEM. Enfin voilà, ils trouvent des solutions, hein, heureusement. Mais voilà, parce que à la base, le dialogue est quasiment impossible entre ses parents et l'école, entre guillemets. Et il le perçoit très très vite. Ça, c'est des points importants. C'est pas tant de familles que ça, mais malgré tout. Et c'est souvent des familles, effectivement, même quand on les invite dans des espaces comme ça, qui sont neutres. Enfin, moi, je suis pas salariée de l'éducation nationale, ni de la commune. Voilà, hein, indépendante. Malgré tout, c'est dans l'école, on parle de trucs de l'école, de des sujets de parentalité, ça les touche, ça les brasse, ils sont pas du tout en confiance, au mieux ils vont essayer une fois puis ils vont pas revenir, voire ils vont jamais venir malgré toutes les invitations qu'il peut y avoir, même par des personnes qui les connaissent, qui sont déjà dans cet espace, ils vont pas venir, ils vont être constamment en retrait. Ça c'est une réalité, c'est une problématique importante. Je dirais, moi, que, alors pour le vivre, hein, évidemment, je dirais que ceux qui animent ce genre d'espace sont vraiment là pour être des passeurs, en fait. Très souvent, pour traduire, et là je parle pas de la langue, mais de traduire les intentions, de passer d'une représentation à l'autre et de la faire avancer. Et ça, c'est quelque chose qu'on minimise très souvent. On voit le côté, comme le reportage le montre, hein, à la caméra, on voit le côté café, on voit le côté, voilà, on papote, etc., etc., qui paraît très très léger. Et en réalité, on travaille des choses très très profondes, des sujets très très profonds, hein, des sujets d'actualité, des sujets qui touchent, voilà, la parentalité, des faits de société, etc. qui sont en fait très importants. C'est le seul espace où, où ces personnes arrivent à exprimer ça et arrivent à le faire en confiance. Ce qui est pas banal et qui leur permet de cheminer au niveau de l'école, mais pas seulement de l'école. C'est-à-dire il y a des bénéfices secondaires que je pense qu'on ne mesure même pas, dont elles témoignent de temps en temps ces mamans, mais où je me rends compte voilà du cheminement personnel qu'elles ont en tant que personne, en tant que parent, en tant que citoyen, voilà qui est absolument voilà c'est énorme en fait hein, le cheminement.